Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer.
Et je suis Colin.
Je vous parle de crime.
Et je fais mon possible.
Hello!
Bonsoir, Jennifer.
Bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean.
Yes.
On enregistre pendant la Saint-Jean-Baptiste. Lundi, oh, ouais. On est en retard.
Oh, yeah. Well, you know, t'étais en mini-vacances au Saguenay.
Vacances. How are you doing?
I'm super, merci. Hier, j'ai enregistré un tout nouveau coin de Colin's Corner qui est disponible maintenant.
J'ai vu
sur
le titre.
Patreon.
J'ai vu le titre, puis j'étais comme, oh, mon petit chou.
So, checkez ça. Checker ça. Je parle de mon historique de dépression, puis tout.
Sur ça. L'histoire d'aujourd'hui est vraiment rough. Trigger warning, kidnapping, viol, violence extrême, suicide. Voilà.
Jennifer, I don't like it.
Ouais.
Oh, come on now.
Es-tu prêt?
Non.
Prêt, pas prêt? J'y vais. L'histoire d'aujourd'hui se situe à Chicago, aux États-Unis.
Ouh, c'est rough. Chicago. Ouais. Hey, oh.
La, ben, OK. Ça se situe pas juste à Chicago, on va en reparler tantôt, en Californie aussi, OK? Mais bon, ça commence à Chicago. Alors, la ville de Chicago est une ville immense en Illinois. Elle compte plus de 2,5 millions d'habitants, puis est située dans 792 arrondissements.
Mm-hmm.
C'est fou pareil. Même si c'est rien à comparer aux autres grandes villes états-uniennes, le coût de la vie à Chicago est l'un des plus élevés de l'État. Ce qui est super intéressant, c'est que plus de 15 % de sa population active travaille de la maison, dans des startups, des compagnies d'économie, d'informatique ou d'ingénierie. OK.
Okay. Puis,
plusieurs personnes utilisent le transport en commun puis des navettes pour se rendre au boulot en périphérie. Fait que ce mode de vie est particulièrement intéressant pour les jeunes professionnels urbains très éduqués. Plus de 42 % ont des diplômes universitaires contre environ 22 % dans le reste des États-Unis. C'est débile. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est vrai que pour habiter à Chicago, ça prend quand même beaucoup d'argent. Mais quoi? Ça prend beaucoup d'argent partout, je sais pas.
Yeah. I mean, dans les villes sont fucking chères.
Ouais.
En général, tu sais.
Mais en gros, à Chicago, tu sais, il faut dire que la population est jeune, est éduquée, puis ils sont cool, tu sais.
Mm-hmm.
La majorité des habitants de la ville des Vents est blanche, mais une très grande diversité ethnique s'observe ma phrase était vraiment mal écrite à toi. OK. On y trouve une importante population noire ou afro-américaine et tout un melting pot d'autres communautés culturelles comme des latino-américains, des italiens, des polonais, des allemands, des anglais, du UK. Bon, bref, c'est une grande ville, c'est tout mélangé, c'est beau, on aime ça. J'ai dit que mon texte était mélangé, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Michel.
Oh, tu mets ça, tu la lances en dessous là, toi.
Ben non, mais tu sais, je voulais attendre à la fin avant de vous dire que. Je vais attendre à la fin avant de dire que c'est elle qui avait écrit cette belle histoire-là, mais là.
On t'aime, Michel.
Mais oui. Beaucoup. Puis, l'histoire que je. Tu sais, comme je vous dis tout le temps que je choisis les histoires qu'elle écrit, mais cette histoire-là, j'avais vraiment envie de vous en parler parce que ça m'avait vraiment marqué, OK?
Ah, puis tu me claques avec des trigger warnings au début. Je suis comme... Ça va être terrible.
La ville est très active culturellement, puis le nightlife est foisonnant pour permettre à cette jeune population de vivre sa best life. Avec un revenu moyen de 46 000 par personne ou 184 000 pour une famille de 4, ses habitants ont amplement les sous pour consommer la culture locale. Berceau du jazz et de la lutte contre les inégalités sociales et de la sociologie nord-américaine. On se rappelle que Michel est sociologue, est prof de sociologie. Chicago a su tirer profit de cette diversité et développer une identité qui lui est propre au fil des arrivées de migrants qui continuent encore de nos jours. De nombreux intellectuels influents y ont habité, dont l'ancien président Barack Obama, qui a rencontré sa femme Michelle lorsqu'il y occupait un emploi de travailleur social. Malgré ses points très positifs, on s'entend que tout est pas rose nulle part, là. Les magnifiques maisons de Chicago côtoient des quartiers défavorisés puis délabrés. Le nombre d'immeubles vacants, c'est un enjeu de taille, hein, souvent laissé à l'abandon pendant plusieurs années. Ce sont un endroit rêvé pour les squatteurs puis les consommateurs. Donc,
yeah.
Ouais.
C'est choquant.
Faut pas oublier que pendant les années 1920, à la fin des années 1940, la ville de Chicago était le royaume du légendaire Al Capone, qui, au plus fort de ses activités, y contrôlait 161 bars clandestins, 22 maisons de passe, puis et plus, OK? Encore aujourd'hui, la mafia fait la pluie puis le beau temps en ce qui concerne le trafic de drogue, le trafic de sexe et le trafic de voitures volées. Pendant les années 80-90, le centre-ville était fui par la population car les membres de nombreux gangs de rue y faisaient leurs lois. Meurtre, viol, agression à main armée, trafic de drogue, tout pouvait arriver.
Yeah, etc., etc., etc.
C'était un terrain de jeu de rêve pour un tueur en série. D'ailleurs, c'est pas de lui qu'on va parler aujourd'hui, mais John Wayne Gacy, il a fait ses 33 victimes là-bas. Notre histoire a ceci de particulier qu'elle se passe dans deux États, l'Illinois à Chicago, puis ça se passe aussi en Californie. Je vais commencer par vous parler de Andrew Urdiales. J'écoutais Certain Scale, puis en tout cas, un moment donné, il l'appelait Andrew Urine Analysis. Je trouvais ça trop.
Hey, oh, watch out! OK, wait. Andrew quoi?
Urdiales.
OK.
U-R-D-I-A-L-E-S. Fait que le 14 juin 1964, il y a un petit garçon qui voit le jour dans la ville troublante de Chicago. Né de deux parents alcooliques, ça commence bien, là. Puis avec des historiques de problèmes de santé mentale importants, Andrew Urdiales dira plus tard avoir été victime de mauvais traitements et de négligence de la part de ses parents. Juste pour donner un exemple, sa mère buvait considérablement pendant sa grossesse. Ses avocats à Andrew y ont d'ailleurs soutenu qu'il souffrait de syndrome d'alcoolisme fœtal. Il confiera aussi plus tard avoir été agressé sexuellement par sa sœur et ses amis.
Wow! What the fuck, man? Ouh, mauvaise roule des dés, mais en vie, là, comme tu, c'est comme ça que tu débutes.
Ouais.
What the fuck, Jennifer?
Ben, tu sais, il est devenu un tueur en série, là, mais... Plutôt rejet, il était décrit comme un garçon distant, peu charmant, isolé socialement et colérique.
I mean, sans doute.
Ouais.
He's a FAS baby. He's...
Ça, on sait pas si c'est vrai, par contre. Que ben, oui, sa mère buvait, c'est vrai. Mais ça veut pas dire qu'il avait le syndrome d'alcoolisme fœtal, là. Mais bon. À la fin de l'école secondaire, au lieu d'aller à l'université, Andrew rejoint l'armée américaine. Fidèle à ses habitudes, il est peu intégré dans son groupe, il se fait peu d'amis. Il est très intense dans ses entraînements. Mais cela lui permettra au moins de quitter la maison de ses parents et de laisser derrière lui ses années de maltraitance. Mm-hmm. En 1986, il est stationné sur la base de Camp Pendleton, près de San Diego.
C'est assez fameux, Camp Pendleton.
Ouais, même moi, je sais c'est quoi, là. Fait que... Frustré de ne pas réussir à avoir des relations satisfaisantes avec ses collègues, il décide de sortir de la base pour aller voler quelque chose à quelqu'un.
Quoi, exactement?
C'est armé d'un bon vieux couteau de chasse de 11 pouces de long.
11 pouces!
Qu'il se cache dans un coin sombre d'un stationnement, attendant quelqu'un. N'importe qui.
OK, n'importe qui, what the fuck? C'est quoi son fucking assez de problème, là?
Il veut se défouler. Il veut voler de l'argent. Finalement, il va pas voler de l'argent. Mais il va se défouler.
Jennifer!
Robin Brandley, 22 ans. Le 18 janvier 1986, on retrouve le corps de Robin, une magnifique jeune étudiante dans un stationnement de l'université de Saddleback, Orange County. Elle avait la vie devant elle, elle était aimée de tous, Elle est attaquée par derrière, lâchement. Elle reçoit 41 coups de couteau.
41, Jennifer, what the fuck?
Jusqu'à la fin, elle a gardé les yeux ouverts. À l'époque, aucun indice n'a pu être prélevé sur la scène de crime. À défaut d'avoir des informations pour retrouver son meurtrier, la mort de Robin reste inexpliquée pendant plus de 20 ans. Un cold case comme on en entend trop souvent parler. Pendant ce temps-là, Andrew Urdiales continue à progresser dans l'armée. Maintenant marine, il gravit les échelons, mais son tempérament ne rend pas les rapports de pouvoir faciles pour lui. Insoumis, il exige de ses hommes une totale obéissance. Quand t'es pas capable de créer des liens avec les gens, c'est dur de te faire obéir puis de te faire respecter, tu sais. Je vous parle maintenant de Julianne McGee. En juillet 88, 2 ans plus tard, à Cathedral City, en Californie.
Cathedral City.
Cathedral City, désolé. Au moins, j'ai dit le TH.
Oh, t'as frappé le TH comme un pro, je suis fier de toi, je t'aime.
Oh. Alors, à Cathedral City, en Californie, une zone très reculée du désert californien, tout près de Palm Springs, OK, la police retrouve le corps mutilé et partiellement... Mutilé.
Et partiellement...
Brûlé.
Ah! God damn it, Jennifer!
De Julie McGee. Julianne McGee, 29 ans. Travailleuse du sexe, elle ne sera jamais revue après son départ avec un client.
Mm-hmm.
Sa mort est causée par un calibre 45. Mais après 2 jours dans le désert, son cadavre avait servi de banquet aux charognards des environs depuis longtemps.
Ah! C'est quoi un charognard? Des petites bébites?
Genre les oiseaux qui mangent les cadavres sur le bord, n'importe quoi, les poubelles.
Ah, il y a tout. Oh my God. Wow, quelle fin, man. What the fuck, Jennifer? I don't like it.
Encore une fois, la police ne trouve rien de consistant pour identifier son assassin. Mais la police fait tout de même des prélèvements sur place au cas où la vie leur permettrait de les comparer avec d'éventuels autres cas. Marianne Wells. On est en septembre de la même année, 88. Marianne Wells, travailleuse du sexe de 31 ans, est retrouvée morte, au centre-ville de San Diego. Fait que là, il se promène. Là.
Mm-hmm.
Une balle dans le crâne, tirée à bout portant, a suffi pour lui enlever la vie. Elle n'a pas été violée ni volée, mais elle a eu un rapport sexuel avant sa mort. Le condom utilisé pendant l'acte gît à côté de son corps.
ADN. Science!
Les enquêteurs pensent qu'elle n'a servi que de défouloir à son assassin, puis défouloir dans tous les sens. Tu sais, lui, il s'est payé une travailleuse du sexe, il a fait ce qu'il avait à faire, puis là, tu après.
Mm-hmm.
Là, tu dis ADN, science, oui, mais on est dans les années 80.
Fuck!
Pour Andrew Urdiales, les choses vont relativement « bien ». En guillemets. Il est promu caporal au sein de la marine américaine, mais ses hommes ne l'aiment pas vraiment. C'est eux autres, justement, qui l'appelaient Andrew Urine Analysis.
Mm-hmm.
Ses pulsions violentes sont de plus en plus fortes, puis on commence à s'inquiéter pour sa santé mentale au sein de l'armée. Puis là, ça, c'est vraiment dégueulasse, mais il va tomber amoureux d'une jeune fille de 15 ans qui va mettre enceinte.
Non! Oh, Jennifer.
Michel, elle a écrit le wash.
Le super wash. Le wash, wash, wash. Jennifer, come on. Mm-mm.
Il insiste pour qu'elle se fasse avorter parce qu'il a peur des représailles de la part de ses parents, elle, puis de l'armée. Tammy Lynn Irwin, 18 ans. En avril 1989, dans le désert encore, on retrouve le corps d'une travailleuse du sexe de Palm Springs, Tammy Lynn Irwin. C'est une jeune femme sportive, rieuse, qui a décidé de quitter son Oklahoma natal un an plus tôt avec une amie pour trouver du boulot et se faire des nouveaux amis. Malheureusement, Ce sera le chemin d'un tueur sanguinaire qu'elle croisera plus tôt, à deux reprises. En effet, Tammy ne sera jamais revue après son départ avec un client qu'elle avait déjà vu quelques jours plus tôt. Fait qu'elle le voit une fois, tout va bien, elle est vivante. Deuxième fois, elle revient pas.
Jennifer.
Ah, oh, mais attends, ça s'en vient pire.
God damn it, Jennifer.
Après avoir fait sa job, entre guillemets, Tammy a reçu 3 balles tirées par son assassin qui sont restées à l'intérieur de sa voiture pendant... Dans le fond, s'est fait tirer des balles pendant qu'elle se rhabillait pour repartir travailler. Il a tiré la 3e balle juste pour être sûr qu'elle soit morte.
What the fuck, Jennifer?
Encore une fois, la police n'a aucune piste pouvant mener à l'arrestation de ce dégueulasse. Sur Finer Grave, le père de Tammy a écrit « I know Tammy is looking down on all of her family and friends and is waiting to greet each one of us in glory. I love you, Tammy. Dad. » Ça brise vraiment le cœur, là.
Mm-hmm.
En 1991, après avoir été démis de ses fonctions au sein de l'armée parce qu'il ne parvenait pas à se faire obéir de ses hommes, Andrew Urdialis retourne vivre chez ses parents à Chicago. Il n'y a pas beaucoup d'informations à propos de cette cohabitation, mais il semble que les choses se passent bien, mieux que pendant son enfance. Sa vie est tranquille à Chicago, il enchaîne les petits boulots, il vivote sur sa pension de vétéran entre ses contrats. En 1992, en septembre, il retourne en Californie pour de courtes vacances. Il va à la plage. Il paye les services de travailleuse du sexe.
Mm-hmm.
Mais on ne connaît pas son emploi du temps, là, plus précisément. Puis là, je vous parle de Jennifer Asbenson. En septembre 1992, travaillant dans un hôpital de nuit où elle soigne des enfants handicapés, atteint ou atteint de limitations physiques ou mentales, Jennifer Asbenson est une jeune femme de 19 ans qui adore son métier puis qui aime la vie en général. Elle est autonome, délurée, passionnée. Tout le monde l'adore. Habitant dans un secteur un petit peu isolé de Palm Springs, en Californie, elle a de la misère à se préparer à temps pour prendre l'autobus le soir. Puis elle a de la misère par le fait même d'arriver à l'heure au travail. Il y a moins d'autobus le soir. Et puis, elle reste loin. C'est compliqué. Après avoir accumulé plusieurs retards consécutifs à son emploi, son supérieur la menace de la mettre à la porte si elle arrive encore en retard. Fait que là, quand elle manque encore son autobus ce soir-là, elle panique. Comment elle va se rendre à la job? Elle ne peut pas perdre son travail. Elle ne va pas trop comment là, elle va pouvoir se rendre.
Tu sais, Uber n'existe pas.
92, là, c'est ça.
Non.
Il y a un homme gentil.
Boy, j'imagine qu'il est très gentil, Jennifer.
Qui passe par là tout bonnement, puis lui propose de l'amener à son travail, puis mm-hmm. est soulagée, comme « Oh my God, merci, tu sais.
Mm-hmm. »
Pendant le trajet, les deux jasent de tout, de rien. Le gars, il est sympathique, mais peu attrayant. Puis de toute manière, Jennifer, elle s'en crisse, elle a déjà un chum, tu sais. Elle profite vraiment du gars pour avoir le lift, puis voilà. L'homme demande à Jennifer « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis là, ben, elle lui dit « Je suis actrice, je viens juste de terminer mes études. » C'est pas vrai. Il dit « Aimerais-tu qu'on se revoie? Tu pourrais me donner ton numéro de téléphone? » Là, elle est pognée toute seule dans un char avec lui. Là. Elle est comme
« Creepy! I don't like it! Creepy! »
Mais là, elle a le réflexe qu'un million de femmes fait genre chaque jour sur cette planète-là là, pour éviter de se faire harceler par un inconnu qui accrouse dans une situation inconfortable. Elle lui donne un faux numéro de téléphone. Tu sais. Elle dit « Je ne reverrai plus jamais ce gars-là. Je m'en crie ce 8675309. »
I got it. I got your number on the wall.
Fait que, bon, il donne un faux numéro. Mais elle est loin de se douter qu'en essayant de se protéger de même, elle allait se mettre vraiment en danger. À la fin de son corps de nuit, là, elle est épuisée. Elle n'a pas envie de prendre l'autobus pour retourner chez elle. Travailler une nuit, c'est épuisant. Travailler avec des gens malades dans des hôpitaux, tu t'arrêtes pas, là. Fait que là, quand on voit l'homme gentil qui a fait un lift tout à l'heure...
Gentil.
Hein, il offre de la raccompagner. Ben, qui, le gars qui a offert de la raccompagner, elle le voit dans le stationnement. Elle va naturellement vers lui pour faire comme « Hey, tu veux-tu me faire un lift, tu sais? » Puis il l'invite à déjeuner, puis elle refuse. Il dit « C'est vraiment aimable, tu sais, mais j'aimerais... Pourrais-tu juste me reconduire chez moi? » Quelques minutes seulement après avoir accepté d'embarquer avec lui, le gars, il se transforme sous ses yeux. Là.
Mm-hmm.
Il dit « Tu m'as menti. Tu m'as donné un mauvais numéro de téléphone. C'est une vieille conne qui m'a répondu. » Puis Jennifer est comme estomaquée, puis elle voit là, le bon samaritain là, qui lui fait un livre se transformer en monstre, là, comme ça. Tout arrive vraiment vite. Elle n'a pas le temps de voir ce qui se passe. Le gars, il se met à la frapper. Il descend son dossier de siège, puis il démarre la voiture pour s'enfoncer dans le désert californien. Elle voit les pylônes électriques défiler devant ses yeux du fond de la voiture. Là, elle comprend tout de suite là, que l'homme n'a aucunement l'intention de la laisser s'en tirer en vie. Elle sait. Soudain, le conducteur il arrête la voiture, puis il se penche sur Jennifer.
Mm-hmm.
Il détache sa ceinture. Il découpe ses sous-vêtements avec son bon vieux couteau de chasse de 11 pouces.
Dear God!
Il essaye de forcer Jennifer à lui faire une fellation.
Mm-mm. Mm-mm.
Save big on your Thanksgiving feast, all in the Kroger app. Buy two, get three free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up with your card. Then get a juicy frozen grade A Kroger turkey for 49 cents a pound, limit one with a $25 additional purchase with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Mais il n'arrive pas à avoir une érection.
Yes! Fuck you, bitch!
Son impuissance décuple sa colère. Puis là, il voit noir. Il est vraiment fâché. Puis là, yes.
Whatever, c'est ta faute pour être fucking... un son of a bitch de douche-baguette, de merde, de croquette, de chi.
Qui bande pas. Il essaie de la violer, mais encore une fois, il n'arrive pas à bander. Puis il dit à Jennifer, il dit « Dis-moi que tu m'aimes. »
Fuck off, man. Fuck off.
Fait que là, tu sais, elle essaye de... Elle regarde, puis elle essaye de... Elle dit qu'elle l'aime. Genre, mais le gars, il était comme... Ça paraît pas que c'est... On dirait que tu crois pas ce que tu dis. Fait qu'il est comme en calice.
Yeah!
Là, il sort de la voiture. Il se met à la frapper, puis il commence à l'étrangler. Jennifer résiste. Elle se débat. Elle lui donne des coups de pied.
Yeah, you go, Jennifer. Kick him in the nuts.
Étrangler quelqu'un.
D'un couille!
Étrangler quelqu'un, là, c'est pas une mince affaire, mais quand c'est une femme aussi déterminée que Jennifer S. Benson, c'est encore plus difficile, OK?
Fuck yeah!
Puis là, ce bout-là, là, faut écouter. Jennifer a survécu.
Hell yeah! Let's go, Jennifer!
Faut écouter les témoignages qu'elle fait, là. C'est terrible parce qu'elle raconte toute l'histoire. Tous les reportages que j'ai écoutés sur elle, là, sur l'histoire, comment elle raconte, là, ça poigne au cœur. C'est terrible ce qu'elle a vécu, puis qu'elle soit capable de le... Il y a une entrevue qu'ils l'ont apportée au même endroit où elle s'est faite violer, puis attaquer, puis être assise dans le milieu du désert sur une chaise, puis elle raconte son histoire au même endroit. En tout cas, c'est terrible.
D'où Jésus, Jennifer?
Puis là, quand elle racontait ce bout-là, là, genre, j'en avais des frissons, là, j'avais les larmes aux yeux. Okay? Il essaie de l'étrangler. Mais ça marche pas, là. Elle se laisse pas faire.
Ouais, elle se prend pour sa vie, là.
Mais t'as pas, il prend ses propres petites culottes, là. Il les met dans sa bouche tellement profond qu'il rentre son poing au complet dans sa bouche, là. Puis Jennifer était comme, there's no way que je vais mourir étouffée par mes propres petites culottes, là. Ça a pas de style bon sens, là.
Oh my God, Jennifer!
Elle était certaine qu'elle allait mourir, là, comme ça, là. Puis là, il continue d'essayer de l'étrangler. Il en a mal à la main tellement qu'elle tient fort. Là. Il la bat violemment. Elle perd connaissance. Après l'avoir ressuscité, en guillemets, en lui frappant la tête contre la voiture. C'est comme ça qu'elle s'est réveillée parce qu'elle a frappait sa tête contre la voiture.
Holy shit! Elle se réveille, puis elle... c'est comme « cogne,
ouais.
cogne ».
Elle lui demande, elle dit « tue-moi ». Elle dit « just kill me, tue-moi ». Fait que là, il rentre son gun dans la bouche.
Oh, oh my God! Puis t'es en train de me dire qu'elle a survécu l'expérience.
Ouais.
So, le gun est dans sa bouche. What the fuck?
Il a hésité. Puis c'est là que Jennifer, en une fraction de seconde, elle a fait « c'est mon moment ». Elle est partie à la course.
Puis lui, il fucking tire pas.
Il a hésité. He was hesitating. Like, he put the gun into her mouth and he didn't, like, pull the trigger, I guess. So, je sais pas combien de secondes qu'il a hésité, mais c'était assez pour qu'elle voit dans ses yeux et qu'elle fasse comme « OK, je crisse mon camp ». C'est fou, là, pareil. Là. Puis, guidé par une détermination hors du commun, il réussit justement à se dégager de son emprise et partir à la course, là. Crisse son camp.
My God! C'est surprenant qu'il l'a pas tiré dans le dos pour comme pas avoir un witness.
Il a réussi à la rattraper.
Témoin. Oh yeah?
Il est parti à la course, il a réussi à la rattraper puis il l'a crissé dans le coffre de sa voiture.
D'où Jésus?
Il a redémarré le char. Il repart. Jennifer, elle sait pas quoi faire. Elle est attachée, okay? Elle est ligotée, là. Ses mains sont ligotées. Elle est à moitié morte dans le coffre d'une voiture d'un esti de malade mental. À chaque fois que je m'écoute, quand j'édite les podcasts pour Spotify, ben, puis toutes les autres plateformes, j'haïs ça m'entendre sacrer, mais je me dis tout le temps, je vais essayer de pas sacrer. Mais crime, quand on parle de sujet de même, ça sort tout seul. Là. Je fais même... Ça n'a pas d'allure. Fait que là, elle sait pas quoi faire. Elle se dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Y a-tu un Dieu quelque part? Je vais me mettre à prier. Je vais prier. Je sais pas quoi faire. Là. Elle est désespérée. Là. Puis sans savoir pourquoi ni comment, elle a réussi à délier ses poings. Ses mains en arrière, là, elle a réussi à se détacher. Puis là, elle dit, y a comme... Elle explique ça vraiment comme une force surnaturelle de Dieu. Là. Elle dit, y a pas d'autre explication. Là. Elle dit, c'est comme si j'étais dans le coffre du char, je voyais rien parce qu'il faisait noir. Mais elle dit, j'étais jamais allée dans ce coffre-là. Je savais pas du tout qu'est-ce qui était où. Mais j'ai su où mettre ma main puis tirer sur quelque chose qui a fait ouvrir le coffre.
Ouais.
Tout de suite.
Parce que même dans ces temps-là, il y avait des poignées de d'urgence pour sortir si t'es poigné dans le coffre d'un char. Ça existe encore.
Je savais pas.
Fucking faut savoir. Si t'es dans le coffre d'un char, tu n'es pas poigné. Il y a une affaire que tu peux tirer là-dessus, puis tu peux fucking crisser ton camp. Puis fais-le quand le char est arrêté, s'il vous plaît.
Ben, c'est ça, là, c'est dit. La porte s'ouvre, mais elle veut pas. Là, c'est ça, elle se dit, je veux pas non plus trop l'ouvrir. Je veux pas qu'il voit tout de suite que le coffre est ouvert.
Yep.
Mais en même temps, elle s'est dit, si j'ouvre le coffre.
Sneaky.
Ben, elle s'est dit, si j'ouvre le coffre, il va s'arrêter pour venir le fermer. Fait que c'est en s'arrêtant qu'elle va pouvoir se sauver.
Mm-hmm.
Fait que finalement, il range violemment la voiture sur la côte mer, il sort, puis referme le coffre, puis il redémarre. Mais malheureusement pour lui, les roues de son auto sont enlisées dans le sable. Fait que là, quand Jennifer comprend que l'auto est pognée, elle retire sa patente, là, puis elle ouvre le coffre à nouveau.
Fuck oui.
Avant que le petit douchebag ait le temps de réaliser ce qui se passe, elle saute en dehors du coffre, à moitié tout nu, couverte de sang, puis elle se met à courir, puis là, elle se met à courir sur la route avec l'énergie du désespoir. Là.
Fuck oui.
Elle essaie de se distancier de son agresseur. Elle le voit qui court en arrière d'elle en hurlant, puis il y a une machette dans les mains. Imagine,
une machette?
Imagine la peur.
C'est comme Jason, là.
Puis elle est à moitié tenue, puis elle a vu tout ce qu'elle est capable de faire. T'sais, elle sait qu'elle est morte.
Fuck yeah, elle s'est réveillée en cognant sa face sur la porte du char, là.
Puis là, comme Alison Botta, là, la fille est tellement mal en point que le premier char qui passe, il arrête pas, là, il la voit, puis ils sont comme « fuck off, je continue ». Tu sais, je vais vous mêler à ça, je sais pas.
Mais run! Cours!
Oui, mais c'est ça qu'elle fait.
C'est la seule chose que tu peux faire.
Mais elle veut de l'aide, tu sais, il y a des voitures qui passent, puis elle veut, il y en a pas beaucoup. La première, elle arrête pas, mais la chance finit par lui sourire, puis il y a une voiture qui s'arrête. les deux jeunes hommes qui l'embarquent sont sous le choc là, face à son état. De l'éloigner de son agresseur, OK? Fait qu'il l'amène à la première station-service qu'il rencontre, puis là-bas, il appelle la police.
Mm-hmm.
Jennifer appelle sa mère. Elle a vraiment échappé belle. Ça l'a passé proche, là. Elle est en vie. Elle n'en revient pas de cette histoire-là. Ça n'a ni queue ni tête. C'est quasiment impossible. Sa propre mère puis la police la croient pas.
Are you fucking...
Qu'est-ce qui vient d'arriver? Ouais, d'arriver.
Tu me fucking niaises, Jennifer. Sa propre mère.
Ouais.
Elle est moitié tue nue, couverte en sang, en train de courir sur le côté de la route. Puis ils sont comme, yo, nah. C'est quoi leur explication? Comment ils peuvent expliquer ça?
Je sais pas, mais c'est comme si...
C'est comme, non, t'étais seul, puis sur la drogue, ben, puis tu voulais être une salope, puis fucking être moitié tu nu, puis tu cherchais... What?
Oui, c'est ça.
Non, non, non.
Je sais pas si c'est exactement ça qu'ils disent, mais ils disent que c'est de sa faute. Comme, t'as dû te mettre dans cette situation-là, ouais.
Jennifer.
Chris, ils disent que c'est ça. C'est, tu t'es mis dans cette situation-là, là, c'est ta faute. T'avais juste à pas. Je sais pas. Là.
Je suis profondément fâché.
Puis Jennifer aussi, ou dans un podcast, je pense que c'est Sir Danscale qui disait que. Tu sais, peut-être que Jennifer était reconnue pour, mettons, exagérer des histoires.
Mais
dans sa
là,
vie. Mais
là.
Non, mais c'est ça. Fait que tu sais, ça a juste pas joué en sa faveur, mais là. Je veux dire, tu le vois qu'elle est clairement pas bien. Elle a failli mourir. Puis tu vis ça, puis tu te fais pas croire. Elle avait des marques sur ses bras, là.
Yeah. Puis sa tête.
Ouais, elle avait des marques.
Probablement le restant de sa corps.
Ouais.
Come on.
Puis, à force de se faire dire justement que ça se pouvait pas, puis que c'est elle qui était responsable de ce qui venait de se passer, elle en vient à croire elle-même qu'elle a imaginé l'agression dont elle vient d'être victime, finalement. Là.
No fucking way, Jennifer. Oh my God.
Pendant les années qui suivent, cette survivante d'une détermination incroyable essaie d'enterrer ses souvenirs, convaincue qu'elle n'aura plus jamais à revoir le débile impuissant qui a tenté de la tuer. Puis en effet, ni la police, ni qui que ce soit, ne lui reparle les événements de ces événements-là. Elle a même fait une tentative de suicide en se coupant les poignets. Puis comme elle explique, elle dit... Mes blessures étaient le seul moyen de... Je dirais pas les mêmes mots, c'est mieux que ça comment elle dit, mais je veux pas dire qu'elle a fait ça pour avoir de l'attention. Mais c'est un peu ça qu'elle dit, mais elle dit comme tout le monde était en train d'oublier puis que mes blessures étaient en train de se guérir, ben c'est comme si mon seul moyen, c'était de réouvrir mes blessures à nouveau. En 1995, Andrew Ordialis retourne en vacances en Californie. En vacances.
Mm-hmm.
Au programme, plage, fiesta, travailleuse du sexe, évidemment. Peu de temps après ses vacances, Andrew reçoit un diagnostic de schizophrénie et de divers autres enjeux de santé mentale de la part d'un médecin d'un hôpital pour vétérans de Chicago. À son retour à la maison, il se trouve un emploi comme agent de sécurité.
Mm-hmm. Très secure.
Le 11 mars 1995... Denise Manny, une travailleuse du sexe californienne de 32 ans qui œuvrait dans le même secteur que Julie McGee et Tammy Irwin, quitte avec un client. Elle est amenée dans le désert par son client qui la force à se déshabiller sur le bord de la route. Il l'agresse sexuellement, puis la balance face contre terre dans la voiture. Il reprend la route et quand il s'arrête, il tente à nouveau de l'agresser, mais sans succès.
Mm-hmm.
Il la force à marcher dans le désert, la guidant vers la mort. Au bout d'un certain temps, il se fatigue de jouer avec elle.
Oh.
Il se retourne vers lui. Il lui enfonce un fusil dans la bouche, comme avec Jennifer S. Benson.
Oh.
Mais cette fois-là,
God.
Il fait exploser sa tête.
Oh, God damn it, il explose sa tête.
Il retourne vers sa voiture, mis en chemin. Il se ravise, puis revient vers le corps inerte de Denise. Et là, habité d'une colère indescriptible, il sort son bon vieux couteau de chasse de 11 pouces.
Oh my God!
Il se déchaîne sur le corps de sa victime.
Mm-mm.
Une fois qu'il était rassasié, il a quitté les lieux.
Mm-mm.
Andrew s'établit formellement à Chicago en 96, s'est démêlé avec l'armée et sa santé mentale précaire provoque en lui un besoin de stabilité. Au printemps 1996, Laura Oilaki est une jeune femme de 25 ans qui commence à dater un homme de son coin. Ils aiment bien se rendre à Wolf Lake, en Illinois, pour faire l'amour dans un sac de couchage.
Mmh, romantique.
Dans le camion.
Oh, moins romantique.
Un jour alors qu'ils se rendent à Wolf Lake, une dispute éclate et son copain sort une arme de sous son siège. Elle tente de quitter la voiture, mais son dangereux copain... Tu devines c'est qui le copain?
Oh non!
La poursuit et fait feu dans sa direction. Elle finit par tomber sous les balles. Et son assaillant, comprenant qu'elle est morte, la déshabille et balance son corps dans le lac.
Oh, what the fuck, Jennifer?
Sur la route vers sa maison, il fout ses vêtements par la fenêtre, passager de sa voiture.
Mm-hmm.
Ça, c'était le 14 avril 96. Genre, ça arrête pas. Ça arrête pas. Quand je te dis tueur en série, c'est tac, 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 tac. Pendant l'été 96, une travailleuse du sexe de Chicago, Lynn Huber, rencontre un client avec qui elle aura quelques relations sexuelles. Un soir, ce client lui offre de lui faire un lift, alors qu'elle semble traîner un lourd sac de poubelle. Elle accepte et se retrouve un peu prise au piège avec ce client, tantôt aimable, qui lui demande maintenant d'avoir un rapport sexuel pour le remercier de son transport.
Mm-hmm.
Alors qu'elle tente de sortir de la voiture, il sort son calibre 38 cette fois-ci, puis lui tire dans la tête.
Oh my God! Oh, Jennifer.
Il charge son corps dans le coffre de son pick-up avec l'intention de la balancer dans le Wolf Lake. Une fois à destination, il la dénude, puis il mutile son corps avec son bon vieux couteau de chasse. Puis il fout son corps dans le lac. De retour chez lui, il ouvre le sac de poubelle et découvre que Lynn y transportait des vêtements. Il décide donc d'aller porter les effets personnels de sa victime à l'armée du salut, parce qu'elle en aura plus besoin. On retrouve son corps le 2 août 96 à Wolf Lake. Il y en a une autre. En juillet 96, ça c'est avant qu'on retrouve le corps de Lynn. Le corps de la jeune Cassandra Cassie Corum, âgée de 21 ans, a été retrouvée dans la rivière Vermilion. C'est une toune de Slipknot. Dans le comté de Livingston, en Illinois. Elle fréquentait on and off un homme depuis 2 ans, puis un soir, dans un bar, ils se voient les deux par hasard. À la fin de la soirée, le couple décide de quitter en direction de Wolf Lake pour avoir une relation sexuelle.
Mm-hmm.
Une chicane éclate. Andrew lui tire dessus. C'est lui, son on and off copain.
Fuck.
Elle s'écroule. Puis après ça, ben, il y a poignarde avec de nombreux coups de couteau. Il jette son corps inerte et nu dans la rivière Vermilion. Son corps est retrouvé le lendemain, le 14 juillet 96, flottant dans l'eau. Puis là, Michel a écrit la fin, enfin. Le 14 novembre 96, il y a un homme qui est arrêté en compagnie d'une travailleuse du sexe dans son pick-up. Là, faut dire que... OK, bon. J'ai lu ce que Michel a écrit, puis je vais renchérir tantôt, OK. Il tente d'éviter les problèmes en argumentant avec l'agent qui l'arrête et en mentionnant qu'il est un vétéran des Marines. Peu impressionné, l'agent commence à fouiller son pick-up. Il trouve rapidement un revolver de calibre 38 chargé sous son siège. Comme il n'y a pas de permis pour ce type d'arme-là, l'homme est arrêté, puis son arme est confisquée. L'homme s'appelle Andrew Urdialis. C'est lui l'homme qui se fait arrêter. Puis avant de se faire remorquer son camion, les policiers découvrent un sac de couchage puis un sac de gym contenant du duct tape.
Mm-hmm.
À part ces deux éléments, l'auto ainsi que son coffre sont parfaitement propres, comme s'ils sortaient du concessionnaire. Là. C'est vraiment louche. Fait que c'est ça. Puis la police l'avait déjà arrêté auparavant, ce gars-là, pour... OK. La première fois qu'ils l'ont arrêté, il est en train d'avoir des relations sexuelles avec une travailleuse du sexe. Puis, il avait donné son nom, mais en tout cas, les policiers lui avaient donné une chance. Puis là, après ça, quand ils l'ont vu, là, puis ils ont trouvé ça dans l'auto, il était comme... Ce gars-là, non, il est louche, là, je me rappelle de lui. Puis là, après ça, quand ils ont fait le lien qu'une autre victime s'était faite tirer par un calibre 38 qu'ils ont trouvé, il était comme... Non, là, c'est lui notre homme d'intérêt, OK? Six mois plus tard, le 1er avril 1997, la police est appelée à intervenir sur les lieux d'une chicane qui semble être une chicane de couple. Puis sur place, les policiers découvrent que Andrew est accompagné d'une travailleuse du sexe, puis les deux sont en train de se bagarrer. Puis là, il tente... dans le fond, il essayait de la convaincre d'embarquer dans son camion pour aller avoir du sexe à Wolf Lake. Après l'avoir attachée puis soumise à ses fantasmes. Mais tu sais, il voulait aller à Wolf Lake. Qu'est-ce que tu penses qu'il voulait faire, là?
Fuck yeah.
Puis là, c'est là que le laboratoire médico-légal fait le lien entre l'arme des meurtres, bien, de quelques-uns des meurtres, puis l'arme trouvée dans la voiture d'Andrew. Là. Les policiers sont convaincus d'avoir mis la main sur l'homme. Parce que là, ça fait plusieurs victimes qu'ils trouvent. Ils vont où est-ce qu'il habite, chez ses parents. Puis quand il sort de la maison, les policiers l'interpellent. Puis Andrew répond. T'sais, lui, il allait travailler, là. Puis là, il voit les policiers qui partent pour rentrer chez eux. Puis il dit, « I guess I'm not going to be going to work today, huh? »
Non. Les cops sont là, bro. C'est fini.
En 2002. Puis là, il a tout dit. Il s'est assis puis il a tout raconté. Tout ce qu'il a fait. En 2002, Andrew Urdialis est reconnu coupable des meurtres de Laura Oilaki et Lynn Uber. Il est condamné à mort, mais sa peine de mort va être commuée en prison à vie. En 2004, il est reconnu coupable du meurtre de Cassandra Corum. Il est par la suite extradé en Californie pour subir son procès pour les meurtres prémédités de ses 5 autres victimes.
Mm-hmm.
Il est condamné à mort en Californie.
Oh.
Jennifer Hasbeton, elle a assisté en cours, puis elle a aussi fait partie d'un procès parce que finalement, il a été reconnu coupable du kidnapping puis de la tentative de meurtre de Jennifer Hasbeton.
Fuck yeah.
Ouais.
Wow.
Fait que finalement, elle a été crue et entendue, au moins. Mais elle a passé plusieurs années à ne pas se faire croire. Puis à cause de ça, elle a réussi à avoir un chum puis un enfant, mais elle a de la difficulté à maintenir ses relations, à des problèmes, là, avec raison.
Ah, yeah, avec des bonnes raisons.
Mais cette femme-là, là, est incroyable. Là. Sérieusement, faut aller écouter ses témoignages.
My God.
C'est tellement triste à écouter, là. Comment elle raconte, elle a encore des émotions, of course, ça s'oublie pas tout ça, puis de pas s'être fait croire par sa propre mère, man.
Puis les polices.
Ouais.
Ça m'a fait chier en extrême.
Le 5 novembre 2018, le corps d'Andrew Urdialis a été retrouvé pendu dans sa cellule à la prison de San Quentin, en Californie. Jusqu'à la fucking fin, il a réussi à esquiver la justice puis il a réussi à éviter d'affronter les conséquences de ses fucking actions monstrueuses. Mais il a été en prison, mais quand même.
Ah, I mean, fuck off. Faut pas que nos dollars en taxes payent pour son fucking... son existence. Fuck oui, fucking pends-toi, fucking...
On n'a pas besoin de toi.
Get out of here. Puis là, bye!
Ouais. Puis là, l'affaire, c'est que, tu sais, Jennifer, en plus, elle savait, là, quand elle s'est fait attaquer, puis tout ça, elle était comme, ce gars-là, il sait ce qu'il fait, il a déjà fait ça avant, là. Il avait cette vibe-là, puis c'est vrai, il avait déjà tué auparavant. Mais si, là, les policiers l'avaient cru, il aurait pu l'arrêter, puis parce qu'il a fait plein d'autres meurtres après elle, là. C'est ça, l'affaire. Ils ont tellement dû se trouver cave après... Jennifer est devenue, au fil des ans, la porte-parole des survivantes des tueurs en série. Elle a écrit un livre, elle a témoigné dans de nombreuses séries, dans des podcasts de true crime, comme moi, j'ai écouté Sword and Scale, 48 Hours, juste pour nommer eux autres, mais il y en a d'autres. Elle a participé à plusieurs émissions télévisées pour partager son témoignage. On trouve partout des témoignages de la belle Jennifer. T'écris sur YouTube, Jennifer S. Benson, puis t'écoutes lui que tu veux. Là, elle raconte dans plusieurs fois ben, son histoire, la même histoire. C'est fou. Moi, j'ai vraiment aimé dans Sword and Scale. J'ai juste entendu, là, mais ça me donnait des frissons, là, le ton qu'elle avait, puis tout ça. Mais il y a l'interview. En tout cas, si tu la vois sur une chaise dans le désert, là, celle-là, je la trouve creepy parce que c'est là que l'agression s'est produite. Au fil des années, elle a réussi à se réapproprier son histoire, à faire la paix avec ses terribles agressions dont elle a été victime. Puis là, c'est ça, non sans rappeler l'histoire d'Alison Botta, Jennifer S. Benson est une force de la nature. Elle est déterminée, passionnée, vivante. Puis elle a choisi de voir la vie du bon côté, d'essayer du mieux qu'elle peut d'être heureuse malgré tout, là. Michelle, pour écrire cet épisode-là, elle a écouté « Comment survivre à un tueur en série » sur Crave. Donc, elle vous invite justement à l'écouter. C'est une leçon de courage et de détermination que l'histoire de Jennifer S. Benson, la queen, contre sa pièce de caca d'agresseur.
Mm-hmm. C'est une croquette de merde. Fucking...
C'est dégueulasse.
Frappe-moi donc avec les sources.
J'ai deviné que c'était ça, mon histoire d'aujourd'hui. C'est terrible, hein? Ça n'a pas d'allure comment c'est lourd.
I did not like.
Sword and Scale, 48 Hours, pour moi. Pour Michel, Neighborhood Scout, Wikipedia Britannica, crimelibrary.com, 123, Help Me. Moi aussi, True Crime News. Pour Michel encore, Find a Grave, Wicked, oui. Survivre un tueur en série, saison 1, épisode 1, Le Monstre du Désert. Voilà. Bonne Saint-Jean.
Jésus. Yeah, bonne Saint-Jean avec ça. Call this. Tabarjack, Jennifer. Tabarjack, Michel aussi. Call this que c'était un épisode.
Ah. Dégueulasse. Merci de nous avoir écoutés, gang. On vous aime. Vous êtes beau. Vous êtes fin.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Côté sombre sur Instagram, TikTok, Côté sombre podcast, sur Facebook, Côté sombre podcast 6, sur YouTube. On est partout, threads, toutes les choses. Check bien ça.
Checkez partout, on est
c'est
là.
C'est des bonnes affaires. On poste des photos, des vidéos, des clips. C'est cool, c'est fun. Puis le groupe privé sur Facebook, c'est une belle communauté avec plus que 6 000 membres.
6 000 likes! T'as restarté l'intro.
Ça, on vous aime. Merci pour ça.
On vous aime, gang. Merci. À la prochaine. Merci, Michel, pour l'écriture de ce magnifique texte, cette histoire de débile, de fou.
À la prochaine, gang.
Bye.
Bye.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Save big on your Thanksgiving feast, all in the Kroger app. Buy two, get three free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up with your card. Then get a juicy frozen grade A Kroger turkey for 49 cents a pound, limit one with a $25 additional purchase with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.